Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Fait que aujourd'hui le 13 et le 27, Benoît et moi, on va être ensemble pour amener ce message-là. Le but de cette série-là, dans le fond, c'est de démontrer, avec l'aide de la prophétie biblique, que Jésus-Christ est le sauveur du monde qui était tant attendu. Fait que la série s'appelle justement un sauveur tant attendu ou le Messie tant attendu. Okay? Donc le Christ préincarné nous a rendu visite. Moi, aujourd'hui, ce que je vais me concentrer avec vous, c'est de parler du fait que Jésus est le créateur du monde, puis il n'a pas commencé à Jérusalem, à Bethléem, il y a 2000 ans de ça, mais il a fait son entrée dans le monde-là. Puis Ben, il va venir parler de la prophétie qui concernait sa naissance, son lieu de naissance, puis pourquoi aujourd'hui, pour nous, c'est important de croire ces choses-là. Ben, il va nous parler qu'il est né d'une femme, tel que promis. Il est né d'une vierge, tel que promis, puis il est né à Bethléem, tel que promis. Vous savez que dans toutes les grandes religions du monde, il n'y a aucune religion qui annonce son fondateur d'avance. C'est facile, une fois que les événements sont passés, de dire « Ah, c'était lui ». OK, ça, c'est une affaire de dire « C'est lui le chemin, la vérité, la vie ». C'est une autre chose que de reculer des milliers d'années d'avance, puis de dire « ça va arriver comme ça ». Ça va arriver comme ça. Puis qu'on retrouve des centaines d'années plus tard des vieux manuscrits qui datent de ces années-là, qui nous annonçaient les choses à venir. Puis là, que ces choses-là se passent telles qu'elles avaient été promises. Dans la personne de Jésus, ça, c'est des choses qu'on, quand on parle avec les gens, c'est des choses qu'on devrait s'exercer à savoir puis à pas oublier. C'est que pour Jésus, il y a 300 prophéties environ qui ont été faites sur sa venue, sa naissance, sa vie et sa mort, puis son règne futur, dont 100 concernent sa vie sur terre. Et c'est ce qu'on va regarder un peu, on va regarder quelques-unes dans ces messages-là. Pour Mahomet, pour dans les écrits des Védas hindous, 0 prophétie. Dans le Coran, 0 prophétie. Donc, c'est quand même important de comprendre que la Bible se démarque quand même beaucoup de tous les autres écrits religieux de par son contenu prophétique. Et Dieu lui-même dit « J'annonce d'avance ce qui n'est pas, pour vous prouver que je suis Dieu. » Donc, petite parenthèse. OK, la naissance de Jésus. Tu ne crois pas que Jésus est né d'une vierge? Tu ne crois pas ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand que quelqu'un nous dit ça? On se tait. Ben, « Oui, je le crois. » Fait que là, qu'est-ce qui reste dans l'ambiance? Ben, c'est ben une fable, cette affaire-là. C'est comme si tu croyais une fable de quelque chose qui ne se pouvait pas. Ben, en tant que croyant, on est capable d'amener la discussion à un autre niveau que ça, simplement si on connaissait un petit peu la prophétie biblique, puis pourquoi c'était nécessaire? Puis je vais poser une question, dans le fond. J'aimerais ça que quand quelqu'un se moque de la naissance de Jésus, puis que vous êtes croyant, puis vous voulez défendre ce point-là, je suis sûr que vous êtes avec moi pour dire, j'aimerais ça que la personne qui vient de me dire ça, je puisse lui mettre un caillou dans son soulier. Pour qu'elle puisse marcher sur ça, puis qu'elle dise, ça la gêne un petit peu plus. La faire penser, la faire réfléchir. Pas juste laisser avec un doute qui plane, puis que ça n'a pas de sens, ça, que Dieu soit né d'une vierge. Alors, chacun d'entre nous, on devrait être capable, selon 1 Pierre 3,15, de défendre notre foi contre quiconque nous demande l'espérance de notre foi. Et on devrait être capable d'aller à la prochaine question, puis poser cette question-là à la personne. Je vais allumer ma manette, ça va aller mieux. Sais-tu pourquoi est-ce que Dieu devait naître d'une vierge? Ou tu sais que les chrétiens, ils croient que Dieu est né d'une vierge ou que Jésus est né d'une vierge. Est-ce que tu sais pourquoi que c'est important? Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question-là. Puis, on va apprendre, par la grâce de Dieu aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut lancer une semence dans deux blocs de béton, dans un crack, pour qu'il y ait quelque chose qui pousse dans le cœur de cette personne-là, puis qu'elle puisse réaliser que oui, ça fait du sens, cet évangile-là. C'est pas un sujet mince, la naissance virginale de Christ. Pourquoi c'est pas un sujet mince? Bien, notre foi, si la naissance virginale de Christ n'est pas vraie, notre foi est vaine. Laissez-moi vous le dire en quatre petits si. Si Dieu ne s'est pas fait chair, alors il est un simple homme. Et qui dit simple homme dit tous les hommes ont péché. Romains 3, 23. Car tous ont péché. Donc Jésus, s'il est juste un homme, il est aussi un pécheur comme chacun d'entre nous. Tu vois, tu es en train de dire à la personne, le premier point de l'évangile, c'est quoi? On est tous pécheurs. Puis tu n'es pas en train d'y répondre, tu n'es pas en train d'essayer de l'amener à l'évangile, tu es juste en train d'y expliquer pourquoi il faut qu'il soit né d'une vierge, mais tu es en train de faire littéralement, tu es en train de mettre dans son cœur une possibilité qu'on soit pécheur et qu'on ait besoin d'un sauveur. Ensuite de ça, regarde bien ça. S'il n'est pas Dieu, il est un simple homme. Si c'est un simple homme, c'est un pécheur. Et si c'est un pécheur, ben c'est pas un sacrifice parfait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben c'est que pour pouvoir sauver, pour être sauvé, il fallait que à la mort de Jésus-Christ, son sacrifice soit parfait. C'est-à-dire que lui-même soit sans péché. La Bible a dit que Jésus est sans péché. Donc, s'il est pécheur, il n'est pas un sacrifice parfait. Puis finalement, si son sacrifice est imparfait, ben moi, je suis un croyant pour rien. Parce que je crois que son sacrifice sur la croix, c'est ce qui a fait qu'il a payé pour mes péchés. Ben c'est un sujet d'importance. C'est un sujet qui est très important pour nous autres aujourd'hui, pas pour ceux à qui on parle autour de la dinde de Noël qui a rapetissé un peu cette année. Mais pour nous, c'est important. Ça ne peut pas être relégué à un conte ou une histoire, une belle histoire, que c'est beau, Dieu, les bergers qui chantaient dans la nuit, Dieu nous a visités d'en haut. Non, ça ne peut pas être juste ça, parce que ça veut dire aussi qu'on est encore, Jésus va le dire, il dit, je suis la lumière, je suis d'en haut, vous êtes de ce monde. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, si je ne crois pas qui Jésus est, qui est Dieu fait homme, puis est venu habiter parmi nous, je vais mourir avec mes péchés. Alors que si je crois qu'il est Dieu, puis qu'il est venu être le sacrifice parfait, je ne vais pas mourir dans mes péchés. Pourquoi? Parce que mes péchés ont été enlevés, et Christ les a enlevés, et je vais mourir avec sa justice. Okay. Donc, c'est important pour nous, c'est ce que je veux dire ce matin. Quand on considère des doctrines ou des enseignements de la Bible qui sont très importants comme secondaires, on va finir par être des chrétiens qui croient n'importe quoi. Ou si on va se laisser emporter. Il y a des églises qui sont présentement là dans embarquent en pelletée dans la secte politique de QAnon. C'est une secte politique qui enseigne grosso modo que tout le gouvernement est corrompu, que c'est le gouvernement de la bête, finalement. Puis, il y a une grosse dérive là, dans le christianisme présentement parce qu'on interprète toutes les Écritures au travers. Qu'est-ce que le gouvernement fait là, ces temps-ci? Puis on est en train de tranquillement s'éloigner des choses qui sont premières et importantes, comme par exemple cette doctrine-là de Jésus-Christ. Quand on comprend la naissance de Jésus-Christ, on est obligé de saisir la préexistence de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Jésus est partout. Hein? Oui, mais on ne voit pas le mot Jésus parce que c'est Jésus commence seulement à Nazareth, à Bethléem, puis à Nazareth dans son enfance. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Là, le verset 2 de Jean 1 continue que toute chose a été créée par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Il est venu un homme qui s'appelait Jean. Il n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à cette lumière-là. Cette lumière-là, c'est la lumière qui, quand elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme. Elle est venue dans le monde, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, cette lumière-là, ou la parole qui avait la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a habité parmi nous. Puis là, le verset 14 de Jean 1, il dit, elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Jean, il est littéralement en train de nous dire, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis au verset 14, il nous dit, elle a été faite chair, elle a tabernaclé au milieu de nous. Le mot tabernacle, ça veut dire tente. Et il est venu faire son habitation parmi nous. Jean 1 nous explique littéralement que Dieu, le Fils, était distinct du Père, mais à la fois Dieu comme lui. Puis qui a créé le monde, puis qu'il n'y a rien qui a été créé sans lui. Puis que ce Dieu-là, le Dieu le Fils, s'est fait chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Le mot pour parole dans Jean 1, c'est un mot qui en grec est traduit par logos. Et beaucoup de commentateurs bibliques vont voir le mot logos, puis ils regardent la culture grecque. Puis la culture grecque expliquait ce mot comme étant une explication, une parole, une explication dite, un mot qui a été dit, mais une explication. Mais, est-ce qu'on devrait aller voir le grec ou on devrait aller voir plutôt la culture juive du temps? Même si on parlait le grec à tous les jours, là, dans la vie du quotidien, on devrait-tu regarder le mot grec et l'histoire du mot grec ou on devrait aller voir une religion juive qui date des centaines d'années et qui ont une culture avec le mot équivalent à logos, qui est memra? Qu'est-ce qu'on choisit? Le grec ou... Hein? Non, on va aller voir le mot, comment il y a beaucoup plus de poids dans l'histoire juive, effectivement. Arilou, c'est ça? Yes. Bonne réponse. Donc, Jésus n'est pas juste venu expliquer Dieu. Il n'est pas juste venu donner des explications sur Dieu. Il est Dieu. Et c'est ce que le mot « memra » veut dire. Puis juste avant que je cède la parole à Ben, j'ai pas le temps ben d'enseigner, mais il y a tellement de perles là-dessus. Là. Moi, je me suis régalé à étudier ça, mais je vais glisser dessus, puis on va revenir à un moment donné, je vais reprendre ça. J'aimais mieux poser les bases sur pourquoi c'est important ce que Ben va nous enseigner ce matin. Le mot « memra » dans les écrits rabbiniques, les rabbins là qui écrivent, qui interprètent le récit de la création, qui vont prendre tous les versets que nous aussi on a là dans l'Ancien Testament, ils vont mettre le mot « memra » à la place de Dieu. Et des fois, ils vont l'interchanger entre Dieu et la « memra ». Pourquoi ils font ça dans leurs écrits? Parce que chez les Juifs, on considérait le mot « parole » qui est « memra » comme étant ces sept choses-là. Ça vient du Jewish Foundation of the Life of the Messiah. C'est un sommaire que je trouve qui résume bien. Je suis allé sur l'encyclopédie juive aussi, puis j'ai retrouvé ces éléments-là. Mais je trouvais que le ministère Ariel l'avait bien aussi défini. Pour un rabbin, la memra ou la parole de Dieu, c'était distinct de Dieu, mais c'était Dieu lui-même. OK? C'est distinct de lui, mais pareil en même temps. Ça s'explique par une trinité, pas bien par d'autres choses. En tout cas, un groupe uni, une unité plurielle. C'est le moyen de la création. Laissez-moi vous lire un verset du Targum Noéphéti qui dit, « dès le commencement, la sagesse de la memra, de la parole, créa et perfectionna les cieux et la terre. Et la parole, ou la memra, du Seigneur a dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière par cette memra. » C'est intéressant. C'est le moyen par lequel Dieu crée qui fait la création. C'est le moyen pour sauver quand il fait chaud dans le désert puis que le soleil nous brûle sur la tête. Il y a une Shekinah qui est mise. C'est une nuée de la gloire de l'Éternel qui vient sur le peuple d'Israël pour faire un nuage au-dessus d'eux pour pas qu'ils se fassent brûler la tête le jour. Et la nuit, une colonne de feu parce que dans le désert, il fait très froid la nuit. Donc, une colonne de feu qui venait les réchauffer la nuit. Et c'était la memra dans les écrits. La parole de l'Éternel. C'est qui? Jésus-Christ. Il est la parole. Elle a été faite chair. C'est le moyen pour sauver, c'est le moyen pour rendre Dieu visible. Donc, quand on voit la gloire de Dieu d'une quelconque manière, les rabbins vont mettre au lieu de mettre le nom de Dieu, ils vont mettre le mot Memra. C'est le moyen par lequel Dieu signe ses alliances. Soit Moïse est sur la montagne, puis là il est en feu. Soit Abraham, il voit des animaux, là, tu sais, à un moment donné, il y a une alliance qui se signe avec des animaux, hein. Puis il y a comme une colonne du feu qui voyage là, entre des animaux. C'est le moyen par lequel Dieu signe des alliances. C'est le moyen par lequel Dieu se révèle. Wow! Quel meilleur mot dans les mots hébreux, là? Ben, plutôt ici, ça, c'est pas hébreu, c'est la langue araméenne, donc la langue parlée du peuple hébreu au temps de Jésus, puis depuis la déportation. Donc, ça fait à peu près 700 ans qu'on en parle, qu'on parle l'araméen. Quand on connaît ce mot-là, là. L'alphabet araméen existe à peu près depuis ce temps-là. Quelle meilleure description de Jésus! Jésus, il est distinct de Dieu, mais il est aussi Dieu. Il est celui qui a créé le monde. Dans Colossiens 1:17, c'est écrit que toute chose a été faite par lui puis par sa parole puissante. Et le moyen pour sauver, c'est pas le meilleur exemple. Le moyen de se rendre visible, hey, Dieu se fait chair. Je veux dire, Dieu se fait chair. Qu'est-ce qu'il y a de pas plus visible que ça? C'est le meilleur mot dans tout l'araméen pour décrire la personne de Jésus puis son œuvre. C'est le moyen par lequel Dieu signe ses alliances. Je veux dire, Jésus dit, voici l'alliance en mon sang. Une alliance éternelle qui nous rachète de nos péchés. Il n'y a rien de mieux que ça. Puis c'est le moyen par lequel Dieu se révèle. Hébreux 1, 2 et 3 dit, dans l'ancien temps, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Fait qu'aujourd'hui, Ben, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder pourquoi il devait naître d'une femme, pourquoi il devait naître d'une vierge, pourquoi il devait naître à Bethléem, comme c'était promis. Et je vous laisse avec ce verset que vous pouvez lire en attendant.
Ça marche-tu? OK. Oups. Bon. Un petit commentaire en passant. Quand on m'a demandé de parler sur des prophéties, bien, vu que Noël arrive, me se concentrer sur la venue de Jésus. Je vais vous le lire parce qu'il y a beaucoup de stock là-dedans, puis je vais y revenir souvent. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Souvenez-vous de tout ce qu'il y a décrit là-dedans. Bon, premièrement, les temps accomplis. Quand les temps ont été accomplis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pourquoi qu'il fallait qu'il vienne dans ce temps-là? Il y avait la prophétie de Daniel. On pourrait dire en gros que après que cette prophétie-là ait été apportée, Jésus est né 450 ans après, puis vu qu'il a vécu 33 ans, il est mort 483 ans après la prophétie. Fait que là, il reste les 7 ans de la tribulation qui sont à venir. C'est l'aide de la grâce qui a commencé là. C'était le temps, il était vraiment bien choisi. Pourquoi qu'il est venu dans ce temps-là? C'était dans le temps, quand il est arrivé, c'était le temps de l'occupation romaine. C'était les Romains qui menaient, puis pour amener une petite histoire là-dessus, qu'est-ce que Jean-Sébastien parlait tantôt, pendant que Siméon il est là, qui tient Jésus dans ses bras, qui prophétise puis qui bénit Dieu. En même temps, il y a une vieille femme qui s'appelle Anne. Elle est veuve depuis très longtemps. Elle a 84 ans. Puis elle est très, très pieuse. Elle vit dans le temple. Là. Elle est tout le temps là. Elle adore là même. Elle est tout le temps là. Puis elle, elle parle de Jésus à tous les ceux qui attendent la délivrance. Mais il faut dire que les Juifs, eux autres, dans ce temps-là, la délivrance qu'ils attendaient, c'était la délivrance de l'occupation romaine. C'était pas la même délivrance. C'était un peu... Puis, quand il est venu, il y avait une paix romaine. Puis ça, ça a été bien bon pour son ministère à lui. Parce que là, Jésus, il pouvait aller partout. Il pouvait faire le tour du pays. Puis les Romains, ils étaient reconnus pour construire des routes. Fait que là, il y avait des routes pour aller pas mal partout. Puis il y a eu des rassemblements autour de Jésus. 5000 personnes, mettons. Puis les Romains, ils ont pas rien fait, là. Parce qu'il y avait comme une paix romaine durant ce temps-là. Fait que c'était bien bon pour ça. Puis, une grosse raison pourquoi que c'était le bon temps qu'ils viennent, la loi avait accompli son rôle, comme qu'on peut voir dans Romains 3, 19 et 20, versets 19 et 20, vous allez lire ça, c'est vraiment clair, c'est clair et net. Ça met en évidence que personne ne peut suivre la loi, personne n'est capable d'être sauvé par la loi. Ça met vraiment en évidence qu'on a besoin d'un sauveur, parce qu'on ne peut pas être sauvé nous autres mêmes. Ça, c'est indéniable, c'est sûr et certain, à 100%. Fait que là, ben, ce sauveur-là, c'est Jésus. C'est sûr. Fait que là, on commence par dire Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils. Ben ça veut dire que il était ailleurs avant. Il n'a pas commencé là. Il n'a pas été créé là. Jésus était avec son Père avant. Bon, fait que là, le Sauveur, fallait absolument qu'il soit né d'une femme. Pas d'un homme et une femme, d'une femme. Pourquoi? Selon Genèse 3,15, il fallait qu'il naisse d'une femme. Puis, je vais vous lire de quoi? Qui parle un peu dans le même sens. Puis ça c'est le c'est de où que ça vient? Puis, je vais vous lire un passage d'un écrit juif. Une source juive. Ça s'appelle le Targum Pseudo-Jonathanon. C'est quand même Genèse 3,15 que ça dit quand même. Ça dit, « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la semence de ta descendance et la semence de sa descendance. Et il arrivera, quand les descendants de la femme garderont les commandements de la loi, qu'ils te viseront et te frapperont la tête. Mais quand ils abandonneront les commandements de la loi, tu les viseras et tu les blesseras au talon. Mais il y aura pour eux un remède, mais pour toi, il n'y en aura pas. Et dans le futur, ils feront la paix avec le talon au jour du roi Messie. » Bon. Une traduction qu'il y avait pour les Juifs, du mot Messie, c'était Dieu héros. Mais un héros comme quelqu'un qui va vous sortir de votre maison quand votre maison brûle. Là. Un vrai héros. Là. Quelqu'un qui va vous sauver. C'est quand même surprenant de voir ça. Puis le mot Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Tout le monde sait ça. Mais moi, quand je suis devenu croyant, je ne l'ai pas catché tout de suite. Emmanuel, c'est Dieu avec nous, mais de la façon que Jésus l'a fait. Jésus, il est venu sur la terre, il était un humain, il était avec nous autres. Je pense qu'il est encore d'ailleurs. comme dans Jean 1, 14, c'est ça. Bon. Pourquoi que c'est si important qu'il soit un homme? Il est né d'une femme. Pourquoi que c'est si important qu'il soit un homme? Premièrement, c'est pour nous révéler Dieu. Autrement dit, c'est pour dire, c'est pour qu'on voit Dieu comment qui est. Parce que là, le monde pouvait parler avec, là, poser des questions, puis il lui répondait. Là. C'est pour être un exemple de vie, si on pourrait dire. C'est sûr qu'il n'y a personne qui peut avoir une vie parfaite comme lui a eu, mais quand même, on peut essayer de s'améliorer. Pour être un sacrifice efficace. Un sacrifice efficace, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'Ancien Testament, ils ont fait souvent des sacrifices, ils tuaient des animaux. Mais ce sacrifice-là, il n'était pas efficace parce qu'il faisait juste couvrir le péché. Mais le péché est encore là. Jésus, lui, il est venu faire le sacrifice une fois. Puis c'était vraiment efficace parce que c'est une fois pour toutes. Pour accomplir l'alliance davidique, ben, il fallait qu'il soit humain parce que il va aller s'asseoir sur le trône de David s'il ne l'est pas déjà. Puis, fallait qu'il soit humain pour aller s'asseoir sur le trône de David, mais fallait qu'il soit immortel. Détruire les œuvres du diable, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est quand il y a eu la chute, on pourrait dire que c'est le diable qui a pris le contrôle de la terre, si on peut dire, parce qu'il s'est mis à tenter les hommes puis les faire pécher. Puis Jésus, quand il est venu, avec son sacrifice et tout, il a effacé le péché pour les croyants, c'est sûr. Fait que les œuvres du diable, ça se trouve être détruites comme ça. Être un souverain sacrificateur compatissant. Ça veut dire que lui, quand il intercède auprès de Dieu pour un péché que j'ai fait, bien, vu qu'il a été humain sur la terre, il me comprend. Parce que lui, il a été tenté en toute chose. Lui, c'est sûr qu'il n'est pas péché, mais il comprend les tentations qu'on peut avoir. Puis, pour terminer, être un juge qualifié, bien là, quand ça va être le temps venu, c'est lui qui va juger toutes les âmes. Puis là, s'il y a des âmes qui vont dire, comme exemple, là, « Ouais, tu sais pas c'est quoi d'être un homme, toi? Tu sais, moi, là, c'est pas facile, puis j'ai été tenté, puis je t'ai rejeté à cause de ça. » Mais lui, il va dire non. « J'ai été un homme. Je sais c'est quoi. J'ai été tenté en toutes choses. » Bon, ensuite de ça, il devait aussi être né d'une vierge. Ça, c'est un peu plus touché. Dans Ésaïe 7,14, ça dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Là, je porte votre attention sur le mot « jeune fille ». Là, c'est sûr que nous autres, on lit ça, c'est en français. C'est traduit comme ça. Mais, en fait, les mots, il y avait le mot hébreu qui s'écrit Alma. Ça, c'est traduit par jeune femme en âge de se marier et qui est vierge. Puis là, quand ça a été traduit en hébreu, en grec, Parthénos, ça c'est dans la Septante. Eux autres, c'est trop plus compliqué un peu quand ils expliquent un mot. Ils disent c'est une jeune femme en âge de se marier dont une des particularités est d'être vierge. Ben, ça veut quand même dire qu'elle est vierge finalement. Fait que. C'est ça. Fait que. C'est sûr que c'est une vierge. Puis je vais vous lire un passage. Luc 1, 26 à 38, quand l'ange Gabriel y est venu, puis vous remarquerez comment de fois que c'est dit qu'elle était vierge. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ça fait deux fois qu'il dit. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Luc dit deux fois qu'elle est vierge, puis Marie elle-même a dit qu'elle est vierge. Parce que quand elle dit « Je ne connais point d'homme », quand on lit ça dans la Bible, dans ces circonstances-là, ça veut dire qu'elle n'a pas couché avec un homme. Jamais. Elle dit elle-même qu'elle est vierge. Puis on peut dire même qu'elle s'est ostinée avec l'ange, si on peut dire, parce que elle a dit, voyons comment ça, ça se peut pas, là. Je connais pas d'homme. Là. Fait que là, l'ange a dit, oui, on va s'arranger avec ça. C'est vraiment, c'est ça. Bon, puis, aussi Jésus fallait qu'il soit né à Bethléem. Comment que ça s'est passé pour qu'il soit né à Bethléem? Puis, en passant, il y a Michée 5.1, ça dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » C'est à cette l'air que ça parle de Jésus-là. Comment ça s'est passé? Il y avait le chef romain qui s'appelait Auguste César. Il a ordonné un recensement. Puis là, ben, comme j'ai dit tantôt, il était quand même sous occupation romaine. Puis les Romains, s'ils ne voulaient pas que ça brasse, il fallait qu'ils fassent ce qu'ils lui disaient de faire. C'est pas mal sûr de ça. Fait que là, il n'avait pas le choix d'y aller. Puis là, il ne faut pas oublier que Marie est enceinte. Puis là, il y avait 3 jours de marche à faire pour se rendre là. Pourquoi c'était à Bethléem? Si jamais il y en a qui ne le savaient pas. C'est parce que Joseph, c'est un descendant de David. Fait que là, il fallait qu'il aille à Bethléem, parce que David, c'est là qu'il est venu au monde. Il fallait qu'il aille dans la ville de naissance de son ancêtre. Il avait pas le choix. Il fallait qu'il aille là. Fait que là, c'est ça. 3 jours de marche avec une femme enceinte. Pas s'il y a des femmes qui se souviennent quand elle était enceinte, là. 8 mois et demi, 8 mois et 3 quarts, à l'effet du cheval. Du cheval ou du mulet, là, mettons que c'est pas l'idéal. 3 jours de marche. Puis quand ils sont arrivés, en plus, ben tout était plein. Tout le monde était là. Puis en plus, Bethléem, c'est sûr que c'était plein parce que c'était une petite place en plus de tout ça. Je m'imagine un peu Marie. Hey, Joseph, oui, c'est le temps, là. C'est le temps de quoi? Ben c'est le temps, là. Elle dit, ah non. Là, il devait chercher une place, puis ça devait presser, là, parce que ça s'en venait. Là. Fait que là, ils sont ramassés. Si ma mémoire est bonne, c'est une grotte, là, c'est comme une étable, là, qu'ils mettaient les animaux là pour les protéger des prédateurs, probablement, durant la nuit, là. Fait que, c'est ça. Puis le recensement, pourquoi qu'ils faisaient ça? Ben probablement que c'était parce que le chef romain, plus qu'il y avait de monde dans son secteur, plus qu'il y avait des impôts qui rentraient. C'est sûr qu'il faisait ça pour l'argent. Puis Bethléem, ben c'est ça. c'est à cause de ça. C'est David est venu au monde là, il fallait qu'il y aille là. Il avait pas le choix. Puis, en fait, ben, la raison, c'était pour que la prophétie soit accomplie, la prophétie de Michée 5:1, qui dit clairement que le Sauveur va naître à Bethléem, même si c'est pas là qu'il était pantoute. Fait que, qu'est-ce qu'on peut dire de qu'est-ce que Dieu fait là-dedans, malgré qu'est-ce que le gouvernement peut faire, comme qu'est-ce qu'il a fait durant ce temps-là? Dieu, il a quand même fait que les prophéties sont arrivées. Jésus, il est venu. Jésus, il est venu au monde dans le temps que Dieu voulait, à la place qu'il voulait, de la façon qu'il a voulu. Ça s'est passé tout de même. Je pourrais vous donner un petit exemple de vie. Moi, mettons, je suis sauvé, ça fait 15 ans, une quinzaine d'années. Moi, avant d'être sauvé, ben, ma façon de socialiser, c'était d'aller dans un bar. Moi, j'allais au bar le vendredi soir. Je n'étais pas quelqu'un qui buvait à tous les jours, là. J'allais au bar le vendredi soir pour voir du monde. Puis, depuis que je suis devenu croyant, j'ai plus besoin de ça. Puis là, mettons, dans le temps qu'on vit présentement avec le COVID, là, pas si vous savez, les bars sont tous fermés, les bars, restaurants, c'est tout on peut comme pas y aller. Si ça aurait été dans mon ancienne vie qui aurait fait ça, là, ça aurait été vraiment mal pour moi. Là, parce que moi, c'était bien important pour moi d'aller voir mes amis le vendredi soir d'un bar. Puis c'est drôle, à cette heure, ça me fait absolument rien. Le COVID n'a rien changé dans ma vie morale, si on veut. Là. Ça n'a absolument rien changé. Puis, un autre petit exemple que je peux voir, parce que moi, ça me faisait penser à Patrick qui disait ça, que quand il avait arrêté, il fallait qu'il arrête sa construction. Il a passé du temps avec sa femme et ses enfants, lui, puis il était bien heureux de ça. Ben, on voit même des jeunes familles qui s'aperçoivent de ça. Ils sont pas croyants, mais quand même, ils vont passer du temps avec leurs enfants parce que les garderies ferment, puis les écoles sont fermées. Ils passent du temps en famille, puis on dirait qu'ils redécouvrent ça, la vie de famille. Tu sais, parce que, avant, là, c'était. On court tout le temps, les deux travaillent à la garderie à 6h30 du matin, on envoie ça à la garderie, puis ça presse. Puis le soir, on vient, on fait à manger, ça presse tout le temps. Fait que ça, c'est bon. C'est ça que je voulais apporter. Puis m'amener... Ouais, OK. Ah, je l'ai éteint tantôt.
1-2. Bon. Bethléem.
Ouais.
C'est un coup de publicité, cette affaire-là.
Ouais.
Dieu savait d'avance que ça en parlerait sur toutes les lèvres à Jérusalem. Tu te rappelles-tu un peu du contexte?
Ouais. Ben, t'avais amené un fait que deux ans plus tard, comment ça se fait que Hérode a su que c'était là qu'était né Jésus? C'est à cause de la prophétie de Michée 5:1. Parce que l'autre, il y avait des savants qui lisaient les Écritures. Fait qu'eux autres, ils étaient au courant que c'était là.
Puis tu sais, ces rois mages-là, même avant ça, Balaam avait fait une prophétie dans Nombre 24.
Okay.
Il y a Balaam, tu sais, celui qui a été engagé pour faire une prophétie, là, pour bénir ou pour maudire. Là. Il a dit, je vois ce qui sort de Juda, un astre sort de Juda. Puis ça parlait d'un roi pour les gens de l'Orient. Puis les rois qui arrivent de l'Orient voient une étoile qu'ils sont pas habitués de voir dans les cieux. Puis la seule chose qu'ils ont, c'est je vois un astre qui sort de Juda. Fait que les autres s'en vont avec, je sais pas si c'est 100, 300 ou 500 ou 3. mais c'est pas vrai qu'il y a trois rois mages. Là. La Bible ne dit pas qu'il y a trois rois mages, mais ils s'en viennent avec des cadeaux, de l'or. Ils vont amener assez d'argent pour que Jésus puisse vivre 2 ans en Égypte. Fait que c'est pas rien quand même. Là. Fait que c'est une délégation. Puis eux autres, ils viennent dans leur idée, là, il y a un roi qui s'en vient, qui va venir de Juda. Puis là, ils voient une étoile, puis dans la prophétie, ça disait « Je vois un astre qui sort de Juda ». Fait que cette étoile-là est importante pour ça. Fait que les autres s'en viennent, mais ils n'ont pas les écrits là, juifs. Fait que là aussi qu'ils vont aller. Ils vont aller à 10 km de Bethléem parce qu'ils ne savent pas que c'est à Bethléem. Puis ils vont aller poser la question, où est le roi des Juifs qui doit naître? Puis le roi, c'est un peu un fou. Hérode, c'est un malade dans la tête. Il a tué sa femme puis ses enfants pour être sûr qu'il n'y a personne qui prenne son trône. Là. C'est un crackpot, le gars. Puis là, les mages arrivent, disent, il est où le roi qui vient de naître? Tu sais, ben, ça fait déjà 2 ans que c'est arrivé, tu sais. Mais là, c'est en Luc 1, c'est écrit, et toute la ville a été en émoi. Mais c'est tout un coup de publicité quand même, parce que tout le monde dit, le sauveur est à Bethléem. Le sauveur est à Bethléem. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés, comme tu dis, dans Michée, puis ils ont été trouvés cette prophétie-là. Que c'est là où ce qui devait naître. C'est quand même spécial que quand il y a un roi fou comme ça, qui veut même faire tuer des bébés de moins de 2 ans pour pas avoir de menace. Ouais. Lui, il dit, moi, je fais tuer tous les bébés de 2 ans et moins, comme ça, je suis sûr que le Messie va passer dedans. C'est quand même fort que Dieu va pas pousser Hérode à faire ça, mais il va quand même, ça va être tout un coup de publicité. Là. Il n'y a pas une personne à Jérusalem qui ne dit pas « Le Messie est à Bethléem, le Messie est à Bethléem ». Tout le monde se dit ça, « Le Messie, il paraît que le nouveau roi, il est à Bethléem ». C'est comme si, peu importe comment l'histoire se passe, est-ce que c'est Dieu qui a dit à... Tu disais que c'était César pour les impôts?
Oui, Auguste César.
Dieu, tu dis à César, hey, tu devrais avoir plus d'argent, fait que fais un recensement, parce que moi, la petite Marie, il faut qu'elle s'en aille, là... Faire recenser.
Ouais.
C'est-tu Dieu qui a dit à César de faire?
Oui, direct non. Hein.
C'est quoi tu penses?
Ben, Dieu s'est servi de ça pour faire qu'est-ce qu'il voulait faire quand même. Mm-hmm. Ça me fait penser un peu aussi à des temps qu'on vit à cette heure. Là. Le monde s'est tout viré à l'envers. Là. Mais oublions pas que Jésus, il va revenir quand même. Il va faire qu'est-ce qu'il a à faire. Ça va se passer quand le temps va être venu. C'est là que ça va se passer. Pas le lendemain, puis pas le lendemain avant.
Fait que même s'il y a un gars qui veut faire des taxes, si, peu importe comment que ça se passe dans l'Empire romain de ce temps-là,
ouais.
Dieu est capable de faire ce qu'il veut, puis envoyer Joseph puis Marie à Bethléem.
Oui, surprenant, pareil. Marie qui était... Parce que moi, je m'imagine, si ça serait à cette heure, Marie qui est enceinte de 8 mois et demi, moi, il me semble qu'il dirait, ben là, on va attendre, on n'y ira pas tout de suite. Là.
Mm-hmm.
Non, il fallait qu'il y aille, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix d'y aller.
Ce que dans mon vidéo que je fais pour l'Église, Julien est venu filmer ça hier, puis le gros de mon vidéo qui dure 1 minute 45, non, 2 minutes 6, j'ai essayé de rester le plus bas possible. On a essayé, mais je n'ai pas été capable. Je parle du fait que Marie, là, c'était pas drôle pendant tout, là, de partir à 8 mois et quelques de grossesse, puis couché dans une ferme, une grotte, y avait-tu de l'eau courante, y avait-tu des sages-femmes pour l'aider à coucher, tu sais, ça devait pas être vraiment pas être agréable, tu sais. Puis ce que je voulais faire transparaître dans mon vidéo, c'est que non, il y en a qui sont super contents de cet incite là, ils vont s'habiller en mou, ils feront pas de repas, ils courront pas dans les parties. Yes, on va vraiment se reposer enfin cette année, mais il y en a d'autres que pour eux autres là, c'est comme ils vont se sentir seuls, ils vont se sentir isolés, tu sais. Puis ce que je voulais, c'est de parler à celui qui mange des crottes de fromage en se tapant des séries de Netflix parce qu'il est content d'être en vacances, que c'est cool, c'est un temps de réjouissance, le temps des fêtes, mais c'est pas juste manger des crottes de fromage puis être habillé en mou puis pas avoir plein de parties. C'est de réaliser que Dieu nous a visités d'en haut. Que Marie, c'était pas convenable pour elle d'être là. Il y avait rien de convenable. Là. Tu penses à toute l'histoire de la nativité, comme je vous disais, puis tu sais, le meurtre des enfants, le roi fou, être obligé d'aller vivre en Égypte pendant 2 ans parce qu'il y en a qui veut tuer ton enfant. Tu sais, je veux dire, tu te mets un peu dans cette situation-là. Puis ouais. C'est vrai, mais c'est rien. Fait qu'à chaque époque, c'est douleur. Tu sais. Mais à chaque époque, on a besoin de réaliser, hey, sais-tu quoi? Oui, c'est un temps de réjouissance dans le temps des fêtes. Oui, c'est un temps de réjouissance parce que Dieu nous a visités dans le haut.
Là, amen.
Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci pour Jésus. Non seulement il nous a visités d'en haut, mais ça a été annoncé très longtemps d'avance que tu naîtrais d'une femme. Tu aurais pu juste apparaître, t'es Dieu. Tu aurais pu juste apparaître, that's it. Mais non, il y avait même la douleur associée à tout ça. T'es pas juste apparu dans le monde pour qu'on dise, ouais, toi t'es Dieu, c'est pas pareil. Non, non, t'es un souverain sacrificateur qui sait compatir à nos faiblesses. T'sais. Quand t'écoutes nos prières puis que on est éprouvé, t'as été éprouvé. T'as été abandonné. T'as été crucifié. Comme Gilles disait, on doit notre reconnaissance. Dans ce temps des fêtes, ça va être différent cette année un petit peu. Pour certains, ça va être un moment de joie, pour d'autres, un petit peu plus un temps difficile. Mais Ben nous a dit ce matin, Emmanuel, Dieu avec nous. Celui qui est avec nous a les mains percées. Puis il nous aime. On n'est pas seul. Tu es là, Seigneur. Tu as dit, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites des nations des disciples. Qu'on puisse prendre à cœur, Seigneur, de comprendre comme il faut ce qu'on a entendu ce matin, pour que la prochaine fois que quelqu'un dit, « Hey, voyons donc, tu ne crois pas que Jésus est né d'une vierge? » Mais certain. Pourquoi tu penses que je crois, que les chrétiens croient? Ben, ça peut pas être autrement, sinon ça ne servirait à rien ce que je crois. Ah ouais, pourquoi? Mais parce que on a écouté ce message-là, on l'a médité. Pour beaucoup d'entre nous, c'était pas des nouvelles choses, c'était des choses qu'on savait déjà. Mais on a besoin de les asseoir dans notre cœur, les mémoriser même, ces vérités-là. Réécouter peut-être le message, puis laisser descendre ça dans notre cœur. Puis ça développe la reconnaissance. Parce que les choses qui sont loin des yeux sont loin du cœur. La preuve, mémorise, je sais pas moi, Jean 1, mémorise-le. Tu vas voir, ton cœur va battre pour ça, pour qu'est-ce que tu as lu. Parce que les yeux, ce qui est proche des yeux est proche du cœur. Fait qu'aujourd'hui, même si c'était quelque chose que tu as entendu, qui était pareil à ce que tu as déjà su, que tu savais, rappelle-toi que le fait que tu l'ancres dans ton cœur, tu l'aimes. Tu aimes cette vérité-là, tu t'y attaches, puis tu dis ça, là, je la laisserai pas aller, cette vérité-là. Parce que c'est le jour où Dieu m'a visité d'en haut. Fait que, on va avoir une bonne période des fêtes, Seigneur, parce qu'on garde ces choses-là près de nous. Puis on va revenir avec d'autres prophéties que t'es attendu encore. Puis que si, quand t'es été attendu, t'es venu, ben, ta deuxième venue aussi, on est certaine. Puis notre espérance est pas en vain. Merci Seigneur pour chaque personne qui était ici et bénis notre retour au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Benoît. Good job.
Merci à toi.